Vous écoutez, on lit pour vous.
Quel avenir pour la télévision québécoise en crise profonde? Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir. Denis Dubois, pilier de l'industrie télévisuelle québécoise, a participé à un panel du congrès Entertain AI, I-AI 2025 sur l'intelligence artificielle, IA, au Palais des congrès de Montréal. Le thème des échanges, échecs, adaptation et transformation, l'IA dans l'industrie audiovisuelle. La discussion de fin d'après-midi n'a attiré que deux personnes du secteur de la télé, en plus d'autres curieux. Ce manque d'intérêt m'inquiète beaucoup et en dit beaucoup, dit Denis Dubois en entrevue au Devoir. Je le dis avec beaucoup d'affection. J'ai l'impression que les gens de mon milieu sont en mode survie. Ils voient l'IA comme une technologie menaçante, dangereuse. Elle est là. Ce train à très haute vitesse va passer et il faut choisir la première classe, la deuxième ou la soute à bagages. Il poursuit en racontant ce qu'il a vu dans un autre atelier. Une séquence montrant une poursuite policière à New York dans les années 1970 avec voitures d'époque, tirs de revolver et course effrénée jusque dans un édifice. Le présentateur qui signait la scène évaluait que celle-ci aurait demandé un budget de tournage de 20 millions alors qu'elle ne lui a absolument rien coûté, sauf son temps passé à l'ordinateur. D'ici un an, on devrait voir un long métrage entièrement conçu de cette manière, dit le professionnel des écrans. Il faut se questionner sur cette révolution et j'ai l'impression que notre télévision ne s'y intéresse pas parce qu'elle est trop préoccupée par sa simple survie. Denis Dubois, figure centrale du système télévisuel québécois, a dirigé le secteur des chaînes spécialisées du groupe TVA, Addict TV, Prise 2, Casa, à une époque où ce genre de vieux relais câblés comptait encore. Il a aussi été directeur des programmes à Télé-Québec et responsable de l'ensemble des plateformes de Québecor, dont TVA et Club Illico. L'avenir de ce monde qu'il connaît de fond en comble l'inquiète grandement. Il le dit depuis des années, il le répète dans une lettre publiée dans Le Devoir. Pour lui, il y a péril en la demeure et même danger de disparition, tout simplement. Le système craque de partout. Le financement recule, la surproduction continue, les audiences baissent, la concurrence des plateformes internationales, en fait américaines, gruge de plus en plus de terrain. Je ne suis pas du genre à avoir la langue de bois et maintenant j'ai encore plus de recul pour juger, dit M. Dubois. Je pense qu'il est grand temps de brasser la cage. Toute l'industrie fait fausse route en ce moment. On est en train de justifier de sauver quelque chose qui ne se justifie pratiquement plus. Rêvez mieux. Le critique, qui aime et châtie bien son monde, pense qu'on produit trop de télé au Québec. Il ne le dit pas, mais le constat semble valoir tout autant pour le cinéma et les arts de la scène. On devrait produire moins et produire mieux, résume Denis Dubois. Trop de production passe inaperçue. Il recommande aussi de revoir complètement le mandat des télévisions publiques. Elles ne devraient plus concurrencer les réseaux privés, dit celui qui a dirigé des réseaux des deux côtés du modèle. Leur seul mandat valable, actuellement, devrait être de protéger la culture québécoise en s'assurant que chaque dollar investi, y compris en association entre Radio-Canada et Télé-Québec, permette de joindre le maximum d'auditeurs. On a perdu la guerre des plateformes, alors ne perdons pas la guerre des contenus. Il donne l'exemple d'une production de la scénariste Fabienne Larouche qu'il a jugée quand il était un des directeurs de TVA. Un projet extraordinaire, dit-il. Je me disais qu'on devrait s'associer avec Radio-Canada pour le faire. Mais non, c'était impossible. On n'avait pas les budgets, pas l'argent nécessaire. Moi, je me dis que l'objectif d'une chaîne publique, ce n'est pas d'attirer du monde, c'est que les gens consomment un produit culturel d'ici. Le gouvernement a le devoir de ne pas perdre contact avec le public. La seule priorité en ce moment, et je le dis avec émotion, c'est de ne pas perdre contact avec le public. La cible des 30-45 ans lui semble prioritaire. Cette génération de parents forme le rouage essentiel pour la transmission des habitudes culturelles vers leurs enfants. Si cette chaîne se brise, elle sera très, très difficile à ressouder. Or, les signes se multiplient d'une cassure intergénérationnelle. C'est le moment de faire exploser nos façons de faire, reprend M. Dubois. Je pense même qu'il devrait y avoir à Télé-Québec un grand centre de recherche sur les médias pour analyser les problèmes, pointer vers des solutions et aider les gouvernements à prendre des décisions. La survie du système dépend aussi en partie des transformations politiques en cours. Le nouveau gouvernement américain pourrait bien attaquer les mesures de protection culturelle canadienne. Le chef d'un des deux partis politiques fédéraux canadiens les mieux placés pour prendre le pouvoir dans quelques semaines ou quelques mois promet de liquider CBC et de réduire Radio-Canada à ici RDI. Les libéraux ont récemment promis, au contraire, de refinancer et de remuscler le diffuseur public, mais après des années de laisser-faire. « Je vais me prononcer pour Radio-Canada uniquement », dit en terminant Denis Dubois. « J'espère sincèrement que les conservateurs ne reprendront pas le pouvoir. On a besoin de tout le contraire actuellement. Le système a ses défauts et ses qualités, mais il vaut la peine d'être sauvé. La télévision reste quand même un média important. Elle a beaucoup d'écueils en ce moment, mais c'est quand même un vecteur fondamental de propulsion de notre culture. Si culturellement nous ne nous assumons plus comme société, lâchons prise et devenons le 51e État. » C'était « Quel avenir pour la télévision québécoise en crise profonde ?» Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 5 mars 2025 dans Le Devoir.
Une publicité qui lance des tomates aux droits de douane. Un texte de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 12 mars 2025 dans La Presse. Une entreprise d'ici a décidé de répliquer aux droits de douanes américains sans passer par quatre chemins. Dans une publicité coup de poing largement diffusée, on aperçoit des Canadiens qui recrachent leur soupe aux tomates directement sur leur écran en regardant des nouvelles liées aux mesures tarifaires. C'est tellement une situation extrême. Je pense qu'on a une responsabilité de prendre position, mentionne le président d'Aliments BCI, Daniel Cousineau, en entrevue avec La Presse. Mon souci, c'est la pérennité de cette entreprise, de préserver 100% des emplois, ajoute-t-il. Aliments BCI n'est pas une entreprise très connue du grand public, mais les marques qu'elle produit le sont. C'est à son usine de Saint-Hyacinthe que sont produites les soupes en conserve Aylmer et Primo, tout comme celles de Saint-Hubert, Tim Horton, ainsi que des principales marques maison vendues en épicerie comme Sélection, Le Choix du Président, Sans Nom ou encore Great Value. L'entreprise a même fait construire une usine de boîtes de conserve à Granby pour ne pas être dépendante des importations américaines et pour réduire les kilomètres parcourus par sa marchandise. L'objectif de la publicité est évidemment de stimuler l'achat local, mais ça va plus loin que ça. Aliments BCI emploie 400 personnes et exporte environ 30 % de sa production aux États-Unis. Selon les estimations de Daniel Cousineau, les contre-coûts des mesures tarifaires pourraient représenter des mises à pied d'au moins une centaine de personnes. Pour lui, l'équation est simple. Si les soupes vendues par Aliments BCI coûte 25 % plus cher aux détaillants américains, ils ne pourront sûrement pas refiler cette somme à leurs clients ni la payer. Moi, je ne peux pas me permettre de baisser mes prix de 25 % pour compenser les mesures tarifaires. On ne fait pas ces marges de profit-là quand on vend des boîtes de soupe, dit-il. C'est assez désastreux. Je pense qu'en ce moment, les Canadiens en général sont très réceptifs à l'achat local. Donc, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Encourager les gens à porter attention quand ils sont sur le point d'acheter quelque chose et se demander si c'est un produit d'ici, résume Daniel Cousineau. Aliments BCI est une entreprise 100 % québécoise, née en 2018 du rachat de la filiale canadienne de l'entreprise écossaise Baxter's Food Group. 20 jours pour faire une pub. L'élaboration de la publicité a dû se faire rapidement, étant donné le contexte. L'agence montréalaise Les Évadés a reçu la demande il y a une vingtaine de jours. Ça prend quelques ingrédients pour faire une bonne campagne. Un brief inspirant et simple et un client audacieux qui nous fait confiance, précise Charles Gagnon, directeur de création ainsi qu'associé et fondateur de l'agence. Pour nous, c'est vraiment intéressant comme agence de faire une campagne qui a un impact social positif, ajoute-t-il. Mine de rien, produire une publicité de 45 secondes, comprenant plusieurs décors et acteurs en 20 jours, c'est du sport. Les Évadés ont relevé le défi avec la maison de production montréalaise Gorditos, ainsi que Parade Studio au son. On n'a pas les moyens d'être à la télévision tous les jours, donc on a fait faire une publicité qui prend bien le temps de faire passer le message. On ne voulait pas que ce soit mélangeant ni s'attaquer aux citoyens américains, explique Daniel Cousineau. D'ailleurs, la soupe éclabousse le nombre 25 % des droits de douane, pas le visage de quiconque. Quand on lance des tomates, c'est qu'on s'oppose à quelque chose. On dit que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là, résume Daniel Cousineau. La publicité existe en version française et anglaise et est diffusée à la télévision et sur l'Internet. C'était une publicité qui lance des tomates aux droits de douane. Un texte de Camille Dauphinet-Pelletier paru le 12 mars 2025 dans La Presse.
Bien faire et laisser braire. Un texte de Catherine Baudry, paru le 11 mars 2025 dans La Presse. Professeure à Polytechnique Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en gestion et en économie de l'innovation, Catherine Baudry fait appel à tout le talent de la province dans le domaine de l'innovation à un moment où celui-ci devient essentiel. Face aux tyrans de toutes sortes, mon père a coutume de dire « bien faire et laisser braire ». Nous devrions agir ainsi face aux menaces de l'occupant de la Maison-Blanche. Peu importe qu'après ses multiples braiements, l'âne est maintenant rué avec ses droits de douane. Alors que les décideurs canadiens semblaient désorganisés face aux droits de douane états-uniens, ils ont maintenant réagi. Une réponse coordonnée et souhaitable. Profitons-en pour accélérer nos transformations numériques et durables pour mieux innover. Abordons d'abord le bien faire. Pour faire face à ces menaces, il faut investir, collaborer, innover et renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans des écosystèmes d'innovation performants, en particulier avec des pays alliés. Nous avons tout le potentiel pour innover ici. Ressources, main-d'œuvre, énergie décarbonée et marché intérieur sous-exploité. L'innovation vient des individus, pas des entreprises. Alors, ne soyons pas alarmés par l'hésitation des entreprises étrangères à investir ici en raison des incertitudes.
notre héritage de patenteux fait notre force en innovation. Nos entreprises ont rapidement répondu à la crise de la COVID-19. J'en parlais dans Le Devoir en 2020. Cette créativité inventive n'a certes pas l'effet escompté, puisque nous vendons trop rapidement nos entreprises à des intérêts étrangers, faute d'investissement chez nous. Un marché intérieur à développer. Comme la nécessité est mère de l'invention, rêvons un peu. Quels sont nos besoins? Nous manquerons bientôt d'électricité pour décarboner notre économie, même si nous arrêtons de la vendre aux États-Unis. Il est aussi crucial d'assurer notre autonomie alimentaire. Qui n'a pas vu les immenses toits plats de Montréal depuis un avion? Ces espaces sous-utilisés pourraient accueillir de l'agriculture urbaine et des panneaux solaires. Bien que la plupart des bâtiments actuels ne soient pas conçus pour résister à une telle charge, il est tout à fait possible d'ériger des structures autour des bâtiments existants. Nous pourrions en même temps améliorer l'isolation thermique et la performance énergétique de ces bâtiments. Nous possédons le savoir-faire et les matériaux pour mener à bien ce projet au Québec. Regardez l'évolution des maisons et immeubles préfabriqués en usine depuis 60 ans. Il est regrettable qu'il n'y ait pas encore de marché intérieur solide pour nos minéraux critiques. Malheureusement, nous bradons encore nos ressources naturelles à des prix dérisoires sans les transformer chez nous. Pourquoi ne pas produire des panneaux solaires au Canada? Il est primordial de minimiser le transport des minéraux et des gaz à effet de serre, de l'extraction au raffinage, puis à la transformation en matériaux de pointe ou en produits finis. Puisqu'on aborde le transport, je salue l'annonce d'un TGV et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ce qui stimule le plus l'innovation, dont l'innovation de processus d'affaires essentiel aux gains de productivité, c'est toutefois la mobilité de la main-d'œuvre locale. L'innovation se trouve ainsi dynamisée par une constante recombinaison des idées, connaissances et expertises. Or, nous sommes une nation de propriétaires. Déménager à chaque changement d'emploi est irréaliste, car cela nécessite de se coordonner avec sa famille et ses enfants. Outre la mobilité active, il est crucial de construire des infrastructures de transport en commun décarbonées, tram, train, métro. La bonne nouvelle, c'est que nous avons les métaux, les minéraux et l'expertise pour le faire, et en prime, 6 beaux gros entrepôts d'Amazon, prêts, pourquoi pas, à être reconvertis en moteurs manufacturiers. Celui de Saint-Hubert est, par exemple, situé tout près du chemin de fer. Arrêtons d'envoyer nos ressources naturelles ailleurs et utilisons-les nous-mêmes. Et maintenant pour le laissez-braire. Tout ce brouhaha au sud de la frontière ne doit pas nous détourner de notre but, mais il faut aussi être préparé à toute éventualité. Où allaient se réfugier les gens pendant le Blitz à Londres et maintenant pendant les bombardements à Kiev? Dans le métro. Des milliers de petits fournisseurs locaux d'électricité issus du solaire sont moins vulnérables que quelques grandes centrales énergétiques. Pendant combien d'années, les Britanniques ont-ils eu des coupons alimentaires après la Seconde Guerre mondiale? 9 ans. Soit jusqu'en 1954, année où le rationnement alimentaire a pris fin. Trop dépendant des importations de nourriture, le pays avait perdu la capacité de produire ses aliments pour nourrir sa population. Nos médias, dont la mission d'information est essentielle, attisent malgré eux cette fascination morbide à l'égard des nouvelles du sud de la frontière. Sans complètement ignorer ce vacarme, cacophonique constant, concentrons-nous sur les mesures à prendre et le travail à faire. On a du pain québécois, sur la planche québécoise. C'était « Bien faire et laisser braire », un texte de Catherine Baudry, paru le 11 mars 2025 dans La Presse.
Mathieu Blais, Histoire à brûler debout. Un texte de Philippe Fortin, paru le 9 décembre 2024 dans Les Libraires. Bien qu'il se décrive comme un être crépusculaire qui sort très peu, Mathieu Blais manifeste un amour sincère pour les gens, pour l'échange et pour cette ouverture aux autres qui donne sens à son écriture. Avec une sincérité révélatrice des fondements de sa démarche littéraire, l'auteur propose une réflexion allant bien au-delà de la littérature. Entretien. Le romancier commence par évoquer sa relation intime avec la poésie par laquelle s'est amorcée sa carrière littéraire. Citation. C'est un monde parallèle, généralement moins fréquenté, mais tellement explosif. Fin de citation. Habitué aux marges, il assume cette position en retrait, espace privilégié pour explorer l'inattendu et l'intensité. Cet espace lui permet de s'affranchir des attentes d'un lectorat plus large, ce qui lui offre une liberté d'expression peu commune. Citation. Ça m'a habitué, voire préparé, à avoir moins de lecteurs. Fin de citation, confie-t-il en riant, une réalité qu'il vivait sereinement. Son parcours en poésie lui a ainsi forgé un regard unique et une sensibilité à l'ombre qui transparaît dans toutes ses œuvres ultérieures. Lors de la publication de Zippo, le MÉAC 2010, coécrit avec Joël Casséus, le jeune auteur d'alors fait pour la première fois l'expérience de lecteur tangible. Cette jonction le marque durablement. Citation. J'ai découvert que le lectorat est quelque chose qui existe pour de vrai. Ce n'est pas tant une question de vendre des livres, plutôt de rencontrer des gens, d'échanger avec eux sur les personnages, de soudainement voir son travail avoir du sens pour d'autres personnes. Fin de citation. Cette interaction active avec le public l'a conduit à une conclusion. Il s'est reconnu conteur. Cette révélation a éveillé en lui un besoin de raconter des histoires qui ne s'est jamais refermé. Brûler debout, paru en octobre dernier, s'inscrit dans une suite de romans marqués par la violence. Dans ses romans précédents, Sainte Famille et Francœur, l'auteur explorait la brutalité sous des formes plus personnelles, conjugales pour l'un, amoureuses pour l'autre. Pour ce nouveau roman, il a choisi d'interroger la, citation, violence révolutionnaire, sociale, religieuse, institutionnelle, politique, name it. Fin de citation. Selon lui, il s'agissait de comprendre ce qui peut amener une personne à justifier la barbarie pour une cause, à penser que celle-ci, citation, est assez importante pour que ça l'autorise à tuer en son nom. Fin de citation. Cependant, en cours d'écriture, la trajectoire de ce postulat initial a fini par dévier. En observant le fait québécois, Blais a réalisé l'ampleur du vide de l'époque actuelle. Citation. Dans le Québec d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'écho ou même simplement de volonté révolutionnaire si on compare avec le climat des années 1960 ou 1970, par exemple. Fin de citation. Ce constat oriente finalement son roman vers le concept d'hybris. Il y sera question de démesure et d'excès. Dans le roman, les personnages sont poussés à réagir face à des violences d'origine multiple. En choisissant de dire non, de se dresser contre ces oppressions, ils se retrouvent inévitablement à franchir la ligne de la légalité. François, Milice et les autres, confrontés aux limites de leurs possibilités d'action, et paralysés un temps par cette impuissance que ressentent tous ceux qui prennent la mesure de l'écrasante implacabilité de la marche des choses et de leur petitesse en regard de cette furieuse roue dentelée, choisiront plutôt de réagir. Le récit de cette réaction, de ce refus qui ne tend pratiquement vers rien d'autre que l'expression même de celui-ci, est ce qui constitue la trame du roman. Cette plongée dans la révolte et le chaos rappelle, selon lui, le film « Natural Born Killers ». Brûler debout devient ainsi un beau gros délire, un espace où les pulsions et l'anarchie s'expriment sans limite. L'écriture de Mathieu Blais, écrivain engagé et observateur acerbe des travers de notre époque, se déploie comme un outil d'analyse et de critique de la société contemporaine. Comme dit précédemment, son parcours en poésie enrichit cette démarche. Il épuise les fondements d'une introspection sensible sur les défis sociopolitiques et philosophiques qui façonnent le monde. Ces textes explorent des thématiques aussi complexes que la déshumanisation causée par le capitalisme, qu'il associe à une forme de barbarie insidieuse qui traverse nos vies. La bibliographie de l'écrivain est également marquée par une incessante quête aussi bien d'identité que de justice sociale, ses personnages cherchant le plus souvent l'adéquation des deux. Dans « Brûler debout », la bande menée par Mélisse outrepasse joyeusement la frontière ténue entre le désir ou la nécessité d'une certaine forme d'idéal et ce qui peut ou doit être fait pour que celui-ci advienne. Il ne s'intéresse pas tant à l'acte de rébellion qu'à ce qui le précède, l'ambiguïté morale, ces zones grises où les protagonistes oscillent entre justification et excès. Il cherche ainsi à soulever des paradoxes plutôt qu'à imposer des réponses, invitant ses lecteurs à réfléchir sur les contradictions humaines, notamment en ce qui concerne le caractère forcément intriqué des liens entre la liberté et la révolte, l'action et la réflexion, ou l'espoir et l'apitoiement. Tout en remettant en question les normes sociales, Blais s'interroge également sur le rôle de l'écrivain. Enseignant au cégep, il transmet ses réflexions aux jeunes, à qui il expose ses inquiétudes et ses espoirs pour l'avenir. Cette facette pédagogique de son parcours nourrit son œuvre en lui permettant de rester en lien avec la jeunesse et ses préoccupations. Dans cet entretien, l'auteur souligne l'importance de la littérature en tant qu'espace de dialogue, de lieu où les idées et les émotions se confrontent et évoluent. À travers cette vision, il rappelle que son écriture n'est pas un monologue, mais bien un espace de rencontre avec le lecteur où la réflexion et l'introspection collective prennent forme. Mathieu Blais occupe une place unique et discrète dans le paysage littéraire québécois du 21e siècle. Peu médiatisé, il se démarque néanmoins par une approche foncièrement sociologique, usant habilement de la fiction pour sublimer des enjeux qui la dépassent, ce qui en fait un auteur essentiel pour comprendre les tensions de notre époque. Avec « Brûler debout », Blais invite à une réflexion saisissante sur la violence, l'engagement et la volonté de faire table rase de tout ce qui achoppe autour de nous. À travers sa vision pénétrante, il redéfinit la littérature comme un espace de relativisme et de résistance. Ce roman, tout comme l'ensemble de son corpus, rappelle que la littérature, bien plus qu'un simple divertissement, peut être une force de transformation et de remise en question. C'était Mathieu Blais, Histoire à brûler debout, un texte de Philippe Fortin, paru le 9 décembre 2024 dans Les Libraires.